Est-ce que vous vous souvenez de quel était le personnage central du chapitre 9? Non? C'est un monsieur qui était aveugle de naissance. Voilà. Et que Jésus a guéri. Miracle évidemment notoire, parce que à la rigueur, guérir un aveugle qui avait attrapé une maladie pour les yeux, etc. Mais un aveugle de naissance, ça s'était jamais vu. Et ça a tellement secoué l'entourage de cet aveugle, et notamment les autorités religieuses locales, qu'ils ont tout fait pour nier le miracle. Mais bien sûr, ils ne pouvaient pas, c'est pas possible. Les parents disaient, mais non, c'est bien notre fils, il est né aveugle, ah ben oui, il est né aveugle, ça, il n'y a pas de doute. Voilà. Et pourtant, ils n'ont pas voulu admettre ça, et ils ont déclaré que Jésus est forcément un pécheur, parce qu'il avait fait ce miracle un jour de sabbat. Quant à l'aveugle né, lui, il avait encore jamais vu Jésus, hein, par définition. Il avait entendu sa voix, mais c'est tout. Et les autorités religieuses l'ont exclu de la synagogue. Ce qui était à l'époque une sanction sévère, hein, c'est une sorte d'excommunication, quoi. Hein. Et Jésus est allé le trouver une fois qu'il était dehors. Et il s'est révélé à lui. Il l'avait encore jamais vu, il l'a vu de ses propres yeux. Et il lui a dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il n'a pas dit crois-tu au Messie, parce que le Messie, c'est un terme tellement pipé que Jésus n'aimait pas trop utiliser ce terme. Crois-tu au Fils de l'homme? Et l'aveugle né lui a dit, oui, dis-moi qui c'est, et moi je veux bien croire en lui. Et tu vois, tu l'as devant toi. Et le texte nous dit que l'aveugle s'est prosterné et l'a adoré. Voilà. Ceci pour introduire le chapitre 10. On voit donc que celui qui a cru s'est retrouvé à la porte. Et Jésus s'occupe des gens à la porte. Alors on va lire le chapitre 10. Donc dans la version du semeur, si vous voulez prendre quelques-unes de ces bibles bleues, il y en a juste dans le hall là. Ça vous permet d'avoir le même texte. Alors voilà comment commence le texte. Vraiment, je vous l'assure, ou bien encore, amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit, « Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Il y eut à nouveau une division parmi le peuple à cause de ces paroles. Beaucoup disaient « Il a un démon en lui, c'est un fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres répliquaient « Un démoniaque ne parlerait pas ainsi. Et puis, est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles ?» Verset 22. Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alors on fit cercle autour de lui et on l'interpella. « Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » « Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi ? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or moi et le Père, nous ne sommes qu'un. » Cette fois encore, ils ramassèrent des pierres pour le tuer. Alors Jésus leur dit, « J'accomplis sous vos yeux un grand nombre d'œuvres bonnes par la puissance du Père. Pour laquelle voulez-vous me tuer à coups de pierre ?» Les Juifs répliquèrent, « Nous ne voulons pas te tuer pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes, car toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. » Jésus répondit, « N'est-il pas écrit dans votre propre loi, « Moi, le Seigneur, je vous ai dit, vous êtes des dieux ?» Or, on ne saurait discuter le témoignage de l'Écriture. Si donc votre loi appelle Dieu ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu, comment pouvez-vous m'accuser de blasphème parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu » quand c'est le Père qui m'a consacré et envoyé dans le monde ? Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi. Mais si au contraire je les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres, pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, les chefs des Juifs tentèrent de nouveau de se saisir de lui, mais il leur échappa. Après cela, Jésus se retira de l'autre côté du Jourdain, au lieu même où Jean-Baptiste, avait précédemment baptisé. Il y resta quelque temps. Beaucoup de monde vint le trouver. On disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Quand on lit ce texte, on voit tout de suite qu'il comporte deux parties. Un discours de Jésus assez énigmatique, où il se présente lui-même comme la porte d'un enclos à brebis, puis comme le berger de ces mêmes brebis. Puis à partir du verset 22, on change de moment et de lieu. Hein. C'est le moment de la fête de la consécration. Et là, il y a une discussion âpre avec les autorités juives qui se termine à nouveau, comme au chapitre 8, par le débordement de leur colère au point qu'ils menacent de le lapider. Alors voyons donc la première partie, les premiers versets, les versets 1 à 5, la parabole que Jésus raconte. Alors Jésus parle probablement à une foule, mais qui n'est pas identifiée. Jean ne dit pas qui étaient les auditeurs. Il devait y avoir un peu tout le monde, hein, y compris des autorités. Et il leur parle donc d'un enclos à brebis convoité par des voleurs et des brigands qui se gardent bien de pénétrer dans l'enclos par la porte, car le portier n'ouvre qu'au berger propriétaire des brebis. Celui qui entre par la porte est lui, le berger des brebis. Le gardien lui ouvre, les brebis écoutent la voix de leur berger. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent, ce qui suggère que toutes ne lui appartiennent pas, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête, et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Et il précise, jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc on voit déjà, il y a dans ce détail de cette parabole, des différences entre la façon de se comporter, dont se comportent les bergers dans nos pays par exemple, hein, par rapport aux pays du Moyen-Orient. Dans nos pays, les bergers marchent derrière, hein, puis ils ont des chiens qui permettent de guider l'ensemble du troupeau. Là c'est très différent, le berger marche à la tête et les brebis le suivent. Et il nous est dit au verset 6 que les gens n'ont rien compris à ce que Jésus voulait dire. Alors c'est vrai que ce discours a tout l'air d'une parabole, mais certains commentateurs, comme un monsieur que je cite souvent, qui s'appelle Frédéric Godet, un Suisse du siècle dernier, pensent qu'il s'agit plutôt d'une sorte d'allégorie qu'une parabole. Dans une parabole, seule la vérité centrale est importante. Tous les autres détails ne sont là que pour donner cohérence au récit. Alors, dans une allégorie, chaque élément a sa correspondance, une signification précise. Et donc, ce monsieur Godet, il pense que c'est plutôt une allégorie que Jésus a racontée. Ainsi en est-il de la mention du portier. Vous avez vu qu'il y a un portier dans l'histoire. Qui est-il, ce portier, qui ouvre au berger? Est-ce juste un détail de la parabole, sans importance, ou désigne-t-il un personnage dont il a été question dans l'ouvrage que le lecteur a sous les yeux? Eh bien, donc, M. Godet pense que le personnage décrit comme le portier, c'était Jean-Baptiste, qui a, en effet, introduit le berger des brebis dans la bergerie d'Israël de façon officielle et divinement conduite dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Il me semble que Godet a vu juste. Car on retrouve une allusion à Jean-Baptiste, vous l'avez vu à la fin du chapitre. En effet, suite aux menaces d'autorité juive, Jésus se retire dans une région assez éloignée, au nord-est de la Palestine, et à l'endroit où Jean-Baptiste avait exercé son ministère, et que beaucoup de gens sont venus et ont cru à la parole de Jésus en disant « Tout ce que Jean-Baptiste avait dit de cet homme était vrai ». Alors, revenons donc à notre texte. Il paraît qu'un voyageur en Palestine a fait l'expérience de ce que Jésus dit au début de ce chapitre. Il a échangé ses vêtements avec ceux d'un berger et l'a appelé les brebis. Eh bien, il n'a pas une qui a bougé. Parce que c'est à sa voix qu'elles reconnaissent leur berger. Vous avez noté ce beau détail. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent. Alors, je ne sais pas si dans nos contrées, les bergers donnent un nom à chacune de leurs brebis. Là, je ne connais pas assez. Mais apparemment, dans ce que Jésus raconte, il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent. Bon, c'est assez classique pour les vaches, je crois, mais pour les brebis, je ne sais pas si c'est très courant. Mais voilà. Mais c'est un beau détail dans cette histoire. C'est très significatif. Cela signifie que si les brebis connaissent bien leur berger, lui les connaît tout aussi bien, et chacune individuellement. Alors verset 7, comme ses auditeurs n'ont rien compris à ce que Jésus voulait dire, il va donner des explications supplémentaires qu'il introduit toujours par cette formule solennelle « Vraiment, vraiment, je vous l'assure. Amen, amen, je vous le dis. » Alors là, il change un peu de registre, il dit « Moi, je suis la porte par où passent les brebis. » Et il le redit encore verset 9, « C'est moi qui suis la porte. » Jésus donc à la fois la porte et le berger. Bon, ça nous déstabilise un peu, ce genre de... Ça nous oblige à faire un effort d'imagination. Et il précise, « Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie en abondance. » Alors, dans la traduction du semeur, il a été mis « les hommes aient la vie en abondance ». En fait, dans d'autres traductions, « que les brebis aient la vie en abondance ». Mais on comprend bien qu'il s'agit d'hommes, Jésus est donc, puisqu'il est la porte, le passage obligé qui conduit au salut. Et ce salut offre liberté de mouvement, vous l'avez noté, et abondance de nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Matthieu 4, verset 4. À l'inverse, ceux qui convoitent les brebis ne passent pas par la porte. Ce sont des voleurs et des brigands. Ils ne viennent que pour voler, tuer et détruire. Au verset 8, Jésus dit que tous ceux qui sont venus avant lui étaient des voleurs et des brigands. Bon, il ne s'agit pas du tout, quand il parle de ceux qui sont venus avant lui, il ne parle pas des prophètes de Dieu et des conducteurs vraiment mentionnés, enfin, envoyés par Dieu pour prendre soin de son peuple. Bien sûr, ce n'est pas ça. Mais il a, je pense, en vue la théocratie légaliste qui s'est emparée du pouvoir religieux et civil à l'époque de Jésus et qui égare le peuple tout en le dominant de façon oppressive. Ce sont les docteurs de la loi et les partis religieux. Vous savez qu'il y avait des partis religieux à l'époque de Jésus, par exemple les Sadducéens, qui avaient la haute main sur la prêtrise, sur le temple, et pourtant c'était des libéraux. Ils croyaient à peine en Dieu, ils ne croyaient pas du tout aux miracles, ils ne croyaient pas au surnaturel, donc on se demande un peu à quoi ils croyaient. Hein. Et pourtant, c'est parmi eux qu'étaient choisis les prêtres. Et puis il y avait aussi les pharisiens, qui étaient plus sérieux quand même avec les données de l'Écriture, mais terriblement légalistes, ce qui les a fait passer à côté du salut et rejeter en bloc l'enseignement de Jésus. Au verset 12, Jésus fait probablement allusion aux prêtres et aux lévites, qui étaient chargés d'instruire le peuple et d'obéir à la loi de Dieu, et ils étaient payés pour ça. C'est pour ça qu'il parle de mercenaires. Hein ? Mais comme le dit Jésus, ils ne se mettaient guère en souci des brebis et s'enfuyaient lorsqu'ils voyaient venir le loup. En contraste avec ces mauvais bergers, Jésus se présente comme le bon berger. Et il le dit à plusieurs reprises, vous avez vu, verset 11 et verset 14. « Moi, je suis le bon berger. » Un petit détail qui ne saute pas aux yeux dans nos traductions, c'est que dans le texte original, il est écrit « Moi, je suis le beau berger. Hein » L'adjectif « bon » existe en grec, hein ? Non, l'auteur inspiré a choisi « le beau berger ». Je pense que c'est significatif, c'est intentionnel de la part de Jean. Ce berger est beau dans le sens où sa beauté morale, et notamment sa bonté, dépasse tout ce que les hommes peuvent concevoir. Alors verset 14, « Moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. » L'intimité entre le berger et ses brebis est de la même nature que celle qui existe entre le Père et le Fils. Pensez à ça, si parfois vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur aux yeux de Dieu. Verset 11, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 15, je donne ma vie pour mes brebis. Le mercenaire qui n'est pas le propriétaire des brebis et qui est payé pour son travail se sauve dès qu'il voit venir le loup. Il ne prend pas même le risque de se battre. Le bon berger, lui, donne sa vie pour ses brebis. Il se bat pour elles, au péril de sa propre vie. Et comme l'on sait, il mourra pour elles. Au verset 16, Jésus ajoute « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. » Jésus parle là des brebis qui ne sont pas de l'enclos d'Israël, c'est-à-dire des païens, qui se convertiront à la prédication des apôtres, selon le mandat que Jésus leur a donné avant de les quitter. Toutes ces brebis formeront un seul troupeau, sous la conduite d'un seul berger. Paul le dira d'une autre façon, il n'y a plus ni juif ni grec. Hein ? Les grecs étant les païens. Verset 17, si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. Verset 18, en effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ce n'est pas parce que Jésus accepte de mourir pour le témoignage qu'il a rendu au Père que ce dernier l'aime. C'est parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. En mourant pour nos péchés, Jésus accomplit parfaitement la mission qu'il a reçue du Père et exalte ainsi au plus haut degré l'amour du Père pour ses créatures et la soumission pleine d'amour du Fils à son Père. Les historiens et malheureusement beaucoup de théologiens trouvent des raisons logiques et à leurs yeux suffisantes pour expliquer la mort de Jésus. En gros, il avait suffisamment énervé les autorités théocratiques de l'époque pour que les Romains acceptent de le faire mourir afin de préserver la paix sociale. Voilà, si vous voulez, la doctrine des théologiens libéraux et des historiens que vous pouvez entendre à longueur d'émissions de télé, etc. Hein ? On voit à quel point il se trompe. « Personne ne peut m'ôter la vie, dit Jésus. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. » Et bien évidemment, ces mêmes théologiens et historiens ne croient pas à la résurrection de Jésus. L'Écriture nous dit que Jésus a remis son esprit entre les mains du Père à la fin des trois heures sombres et qu'il a expiré après avoir poussé un grand cri. les soldats romains et Pilate ont été très étonnés qu'il soit mort aussi vite, car l'abominable agonie d'un crucifié durait généralement plusieurs jours. Il a d'ailleurs fait précipiter la mort des deux autres crucifiés en leur faisant briser les jambes, afin que les corps soient ôtés de leur croix avant le sabbat. Mais Jésus a donné sa vie volontairement. Il est mort quand il a eu l'assurance par le Père que l'expiation des péchés était réalisée. Et il l'a exprimé en disant « Tout est accompli ». Littéralement d'ailleurs, ça veut dire « Tout est payé ». Les versets 19 et 20, comme au chapitre précédent, les paroles de Jésus provoquent des opinions et des commentaires divergents dans la foule. C'est un fou ou un possédé. Oui, mais est-ce qu'un démoniaque serait capable de rendre la vue à un aveugle? Il y a quand même des gens qui réfléchissent. Deuxième partie du récit, elle commence au verset 22. Il y a une coupure de lieu et de temps entre ces deux parties du chapitre 10, mais c'est la continuation du même thème. C'est pour ça qu'il faut le traiter ensemble. On se trouve un peu plus tard, lors de la fête de la consécration. Alors qu'est-ce que c'était que cette fête? En 167 avant Jésus-Christ, le Syrien Antiochos Épiphane, qui était de culture grecque, avait pris Jérusalem et profané le temple en y dressant un autel païen à la place de celui du Dieu d'Israël, dans le temple lui-même. Cet acte a déclenché une révolte des Juifs contre l'occupation syrienne, révolte conduite par le patriote Judas Maccabée. Ils ont réussi à chasser les Syriens de Palestine. Le 25 du mois de Kislev, en gros c'est le mois de décembre, de l'an 164 avant Jésus-Christ, le peuple célébra pendant 8 jours la nouvelle consécration du temple à l'Éternel. Et il fut décidé que cette fête serait reconduite chaque année, à la même époque, c'est la fête que les Juifs appellent Hanouka. Comme le dit Jean, c'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. On est bien toujours à Jérusalem, mais dans un parvis du temple. C'est dans ce lieu que, selon Acte 2, les premiers chrétiens se rassembleront pour écouter la parole apostolique. On fait cercle autour de Jésus. Oh, pardon, excusez-moi. Merci. On fait cercle autour de Jésus. Certainement pas le cercle de ses disciples, mais plutôt un cercle hostile, bien décidé à le convaincre de blasphème pour pouvoir le faire mettre à mort. Jésus est sommé de dire franchement s'il est ou non le Messie. Jésus a toujours évité d'affirmer sa messianité en public, parce que le sens que donnait la foule à ce terme ne correspondait pas du tout à la réalité. En Jean 6, rappelez-vous, la foule voulait l'enlever pour le faire roi. Elle espérait un messie politique et militaire qui chasserait l'occupant romain de la Palestine et lui rendrait sa fierté nationale. Jésus a cependant dit au moins 2 fois qu'il était bien le messie, mais en privé. Dans l'intimité de sa conversation avec la femme samaritaine au puits de Sichar. Et puis plus tard, dans le cercle intime de ses disciples, lorsqu'il leur a demandé qui il était selon les dires des hommes, à sa question « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il avait accueilli sans réserve la déclaration de Pierre « Tu es le Christ », ce qui veut dire « Tu es le Messie », le Fils du Dieu vivant. Mais en public, il ne le disait jamais. Mais les miracles qu'il opérait par la puissance du Père témoignaient amplement de sa messianité pour qui voulait bien voir la réalité honnêtement. Au verset 25, « Je vous l'ai dit, leur répondit Jésus, mais vous ne croyez pas. » En effet, il n'a cessé d'affirmer à de multiples reprises que tout ce qu'il faisait venait de son Père, c'est-à-dire du Dieu d'Israël. « Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur, mais vous ne croyez pas. » Au verset 22, Jésus donne la raison que je trouve terrible de leur incrédulité. Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Si ces Juifs n'écoutent pas la voix du bon berger, c'est parce qu'ils ne font pas partie de ces brebis. Verset 27-29, en contraste, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Je pense que nous avons là la plus claire et la plus forte affirmation de la sécurité éternelle des croyants. De plus, nous voyons que la main de Jésus est aussi la main du Père. Il conclut au verset 30, et ça va énerver les autorités. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Dans le texte grec, le mot « un » est au neutre, pas au masculin. Et ça a du sens, mais ça ne peut pas apparaître dans nos traductions. L'identité de nature entre le Père et le Fils est donc totale, ils sont tous deux pleinement Dieu, mais pas l'identité de personne. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père. Cette distinction donc ne peut pas apparaître dans nos versions, mais heureusement il y a bien d'autres passages dans l'Écriture qui le disent tout aussi clairement. En revanche, dans le cas particulier, il y a unité d'action du Père et du Fils dans la préservation des croyants tout au long de leur carrière chrétienne. Cette parole de Jésus met le feu aux poudres. La foule ramasse des pierres pour le lapider, car elle est convaincue qu'il vient de blasphémer, en disant « Moi et le Père, nous sommes un ». C'est pourquoi Jésus leur pose la question « Pour laquelle des belles actions que j'ai accomplies devant vous, voulez-vous me lapider ?» Alors bien sûr, ils ne répondent pas à cette question. Pour eux, ils tiennent leur chef d'accusation « Tu blasphèmes, parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu ». Il y a là une certaine ironie de la part de Jean, certainement. Adam a péché en voulant être comme Dieu, suivant cela la suggestion du tentateur, et il a subi la juste condamnation divine. Le nouvel Adam, véritablement Dieu, est condamné par les hommes et va porter à leur place la faute de leur péché. Alors les versets 24 à 36 sont un peu subtils, vous l'avez noté, hein ? C'est pas évident de comprendre la pensée de Jésus. Jésus va leur démontrer par une subtile application de l'Écriture que leur susceptibilité dans l'emploi du mot Dieu est en réalité déplacée. Il cite le psaume 82, versets 6 et 7. Voilà ce qu'il dit. « J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. » Voilà ce que disent ces deux versets du psaume 82. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dans le psaume 82, l'Éternel s'adresse au juge de son peuple qu'il nomme Dieu, avec un petit D, dans nos traductions. Parce que, de par leur fonction, ils sont ses représentants. L'argumentation de Jésus est que si leur loi, en l'occurrence ce psaume, appelle Dieu de simples hommes, de par la fonction qu'ils sont censés remplir, pourquoi s'offusquer de ce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu » quand c'est le Père qui l'a consacré et envoyé dans le monde ? C'est donc un raisonnement a fortiori. Mais bon, c'est des trucs auxquels on n'est pas très habitué, mais que les Juifs manipulaient très, très aisément. Dans les versets 37 et 39, Jésus réaffirme le témoignage évident que le Père lui rend à travers ses œuvres, c'est-à-dire ses miracles, signes de sa messianité, et que s'ils ne veulent pas croire ce qu'il dit, ils pourraient au moins être convaincus par les actes qu'ils lui ont vu accomplir. « Laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres, pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Alors là, ils n'ont pas pu supporter la dernière partie de cette phrase. Phrase qui pourtant pourrait les sauver. Ils tentent de nouveau de se saisir de lui, mais il leur échappe une nouvelle fois, car son heure n'était pas encore venue. Ça, c'est pas dans le texte, mais chaque fois que Jésus échappe à ceux qui en veulent à sa vie, il est dit, son heure n'était pas encore venue. Quand son heure sera venue, il se laissera prendre, hein, comme on le sait. Et donc le chapitre se termine par ces versets 39 à 42, où Jésus se retire dans la région où Jean-Baptiste avait mené son ministère, probablement à la Bethanie, au nord-est de la Palestine. Et le chapitre se termine quand même sur une note positive. Beaucoup de monde vint le trouver. On disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Il y a eu du fruit. Du fruit tardif, hein. Jean était déjà mort, hein. Mais du fruit du témoignage de Jean. Jean-Baptiste avait accompli son ministère et ouvert la porte au berger des brebis. Depuis, Dieu l'avait retiré de ce monde. Le divin berger, lui, va très bientôt donner sa vie pour ses brebis, comme il l'a annoncé dans ce beau chapitre. Je vous propose, pour essayer d'être un peu pratique, quelques questions.
Je serais censé les voir là-dessus, non ? Ah oui. Oui, tu peux passer à la suivante. Voilà. Dans le texte qu'on a lu, Jésus dit que les brebis suivent leur berger parce qu'elles connaissent sa voix. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait qu'elles connaissent sa voix ? Parce qu'elles entendent régulièrement. Absolument. Donc, mes amis, si vous voulez bien suivre Jésus,
si vous voulez suivre Jésus, il faut l'entendre régulièrement. Bon, est-ce que c'est mystique ? Si vous voulez entendre Jésus, ben, lisez les évangiles. Vous l'entendrez très bien, il n'y a pas de doute. Puis bien sûr, vous l'entendrez aussi, je pense, dans votre prière personnelle. Donc voilà, c'est la deuxième question. Comment peut-on ordinairement entendre la voix de Jésus ? On y a répondu. La suivante. Jésus dit qu'elles ne suivront jamais d'étrangers, mais qu'elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Bon. Alors, si nous sommes les brebis du Seigneur, y a-t-il dans nos vies d'autres prétendus bergers qui nous invitent à les suivre, mais que nous devons fuir ? On peut se poser la question. Ça manque pas de gens qui cherchent à avoir de l'influence sur nous. Le fait de fuir ces faux bergers, Dieu sait s'il y en a, philosophie, science, tout ce que vous voudrez. Fuir ces faux bergers est-il signe d'étroitesse de vue regrettable ou au contraire de sagesse salutaire ? Ouais. C'est sûrement la sagesse. Et je pense que il nous faut avoir ce réflexe. Ah, ça c'est étranger, ça c'est pas Christ. Ça, je touche pas. La diapo suivante. Jésus affirme qu'il est lui-même la porte de l'enclos des brebis et que ceux qui ne passent pas par cette porte sont des voleurs et des brigands. Connaissez-vous de tels voleurs cherchant à s'emparer des âmes ? Je crois qu'il n'en manque pas. Il n'en manque pas. Toutes les sectes possibles et imaginables, y compris les très grandes sectes. Les iPhones ? Ah oui. Est-ce que les iPhones peuvent s'emparer des âmes ? Je ne sais pas. Mais... Ouais, en tout cas, ça prend le temps des gens, ça c'est sûr. C'est vrai. Je crois qu'il y a un bouquin qui est sorti là-dessus, sur la tyrannie de l'iPhone. La suivante. Jésus affirme que le bon berger met ou donne, ça veut dire la même chose, sa vie pour ses brebis. Connaissez-vous d'autres leaders spirituels qui ont fait ça ? Est-ce que Gandhi est mort pour l'hindouisme ? Non. Est-ce que Mahomet est mort pour la scientologie ? Ceux qui ont... Ils sont morts, les leaders de la scientologie, pour leurs adeptes ? Est-ce que les leaders de la scientologie ont donné leur vie pour leurs adeptes ? Certainement pas. Est-ce que Mahomet est mort pour l'islam ? Non ? Oui, enfin, c'est ce qu'on dit, quoi. Oui, voilà. Je ne sais pas s'il y en a encore une.
Il était empoisonné,
Mahomet ? Ah ben, je ne savais pas, tiens. Bon. Est-ce que c'est la dernière d'abord ? Je ne me souviens plus. C'est la dernière ? Allons. Alors, Jésus affirme qu'il donne la vie éternelle à ses brebis, que jamais elles ne périront et que personne ne pourra les arracher de sa main. Il appuie cette affirmation sur le fait que c'est son Père qui les lui a donnés, que son Père est plus grand que tous et que personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de son Père. À votre avis, les vrais croyants nés de nouveau peuvent-ils chuter au point de perdre leur salut ? D'après ce texte, ça paraît totalement exclu. Et que c'est quand même une sécurité extraordinaire, vous vous rendez compte ? La main de Christ, la main du Père, vous êtes dedans. C'est la dernière, je crois. Hein, ouais. Voilà, et bien écoutez, que la parole de Dieu ait toute sa puissance dans nos cœurs.